D'abord, je ne vais pas me présenter moi-même, mais je vais présenter mon co-auteur, Colin Marchica, qui est ingénieur d'études à l'école des études et détaché au Collège de France auprès de ma chaire. Et nous travaillons notamment sur les carrières dans l'enseignement supérieur, dans les sciences mathématiques récemment. Et il a co-signé plusieurs articles dans la Revue française de sociologie, la Revue économique, la Revue française d'économie, dont un sur les carrières des mathématiciens. Mais nous avons aussi un œil sur d'autres sujets, par exemple la bande dessinée. Alors, d'où vient cet intérêt pour ce domaine ? D'abord, vous savez que c'est l'année de la bande dessinée. Elle se prolonge, pandémie oblige, elle était programmée pour 2020 dans les célébrations de certains arts. Voilà. Et elle se prolonge jusqu'au 30 juin 2021 par un décret du ciel ou du 9e art lui-même. En tout cas, c'était une occasion de le faire. Et nous avions pu disposer, par des contacts, des données d'une enquête réalisée pour les états généraux de la bande dessinée qui se sont tenus à Angoulême en janvier-février 2016. Et l'enquête a été réalisée auprès d'auteurs et autrices de bande dessinée entre septembre et novembre 2015 par un questionnaire sur Internet. Une première exploitation de ces données avait été réalisée sous la supervision de Thomas Paris, qui est au CNRS et à HEC, et elle est disponible sur Internet. Et un doctorant de l'HESS à l'époque, qui est maintenant docteur, Pierre Nocerino, avait été aussi impliqué dans la réalisation de l'enquête et a assuré la mise à disposition des données de l'enquête pour nous-mêmes. Et il a soutenu en novembre 2020 une thèse sur les auteurs de bande dessinée, formation contrariée d'un groupe social qui est disponible en ligne, et je vous y réfère. Et lui-même nous a dessiné, Colin Marchica et moi-même, nous voilà, parce que la question a été comment traiter aussi rapidement des données qu'on nous a mis à disposition, je crois, à l'été, pour une intervention quelques temps après, ou à l'automne pour une intervention en février de l'année suivante. Donc le thème, c'était « Allez hop, on part avec les données, et voilà ce qu'on va faire ». Et ça, c'est moi. Je prends un coup de vieux, là, mais tant pis. Je suis qui je suis, et puis ça, c'est ce que vous allez retrouver. Voilà. Donc nous sommes dedans et sur le sujet de pas mal de manières. Alors, je voudrais aussi remercier Thierry Grandstein et Benoît Peters. Benoît Peters est venu d'ailleurs faire une leçon qui est toujours disponible sur le site du collège. Ça, c'est la vertu du collège, fermé au public ou ouvert au public. En tout cas, ils diffusent tout et tout est accessible indéfiniment. Et ils sont tous les deux des grands professionnels. L'un d'entre eux est aussi un créateur. Et donc, je les remercie aussi. Je vais d'abord vous présenter quelques éléments de réflexion avant de vous présenter les slides. Et qui passeront peut-être trop vite, mais je vais expliquer. L'enquête avait été faite et a recueilli à peu près 1500 réponses exploitables. Elle couvrait très bien le domaine. Vous voyez les données, la démographie de la population qui est assez stable. Cet effectif ne sera pas d'ailleurs celui dont nous exploiterons systématiquement toutes les réponses, parce qu'il y a des non-réponses, je ne vais pas les analyser ici, mais on l'a fait, notamment sur les revenus et les montants d'avance. Et ces non-réponses, pour ces aspects financiers, sont plus importantes que pour d'autres questions. Comme nous voulons étudier à la fois le travail, la carrière, la productivité et la rémunération des auteurs, nos effectifs prennent en compte ou soustraient les non-réponses et nous traitons le cas de à peu près 1200 auteurs et autrices. Les effectifs sont resserrés donc de cette première manière-là, mais aussi à certains moments en ne prenant pas en compte les amateurs, ceux qui s'autodésignent comme amateurs, environ 15% des enquêtés lorsque nous ferons des calculs de régression un peu plus tard dans la présentation sur les chances de gain et d'avance à partir d'un certain nombre de déterminants pris tous en compte. Notre objectif n'est pas de faire un portrait social complet des créateurs de BD, mais de nous centrer sur leur travail et leur rémunération. L'exploitation de l'enquête par ceux qui l'ont faite initialement et qui est disponible en ligne donne tous les tri à plat et différentes distributions bivariées. Et on y voit sans surprise que près de la moitié de nos créateurs sont issus du groupe cadre et profession intellectuelle supérieure et profession libérale. Et à ce titre, le 9e art ne recrute pas socialement tellement différemment des 8 autres. Non, pour notre présentation, nous allons mettre sous vos yeux beaucoup de données qui concernent travail et rémunération, essentiellement sous forme de graphiques et de tableaux statistiques. Cette matière visuelle, elle sera abondante. Je sais que c'est imprudent quand on fait des slides, et c'est peu ergonomique, et il suffit que j'ouvre un document publié par toutes les revues scientifiques sur le thème « Comment atteindre l'efficacité maximale de la présentation par diapositive ?» Eh bien, le conseil numéro un, c'est réduisez la quantité d'informations sur les slides. Les deux raisons pour lesquelles l'exposé contient beaucoup d'informations graphiques et statistiques sont fournir de la connaissance qui fait preuve et non pas impression. Et sur des sujets comme ça, il y a beaucoup de matière à débat ou controverse. Et deuxièmement, produire un document qui, via l'archivage en ligne du Collège de France, peut être durablement consulté avec une vitesse et une attention différentes de la situation de la présentation en salle. Cela dit, quels sont les messages principaux de notre analyse ? Ce que vous pouvez, en dehors de la visualisation, déjà méditer. Premièrement, les créateurs de BD savent très efficacement situer leur degré de professionnalisation. Je vais peut-être tout de suite montrer ceci, leur autodéfinition, elle est là. Installé, précaire, amateur. C'est comme ça qu'on leur a demandé de se situer. Eh bien, l'auto-identification proposée, vous vous définissez actuellement comme, etc., est efficace. Les situations et pratiques de travail, de production, de publication et de rémunération mettent effectivement en évidence une très forte distinction entre le pôle des amateurs et le pôle plus complexe des professionnels qui sont à des degrés binaires, installés ou précaires, beaucoup plus engagés dans la profession. C'est une question classique de la sociologie des professions appliquée aux arts, de savoir comment se dépêtrer des outils et des critères habituels de professionnalisation quand les définitions de la professionnalité sont multiples. Je pourrais en compter à peu près 8, y compris l'intention subjective. C'est une des définitions que donne l'UNESCO. Est-ce que vous considérez que vous êtes artiste, même si vous n'en avez que l'intention ? En fait, il est intéressant de pouvoir explorer cette question de la professionnalité en tendant au créateur un miroir, mais en sachant aussi à partir de quoi est motivée leur auto-perception, leur auto-désignation de leur situation. La deuxième leçon de l'auto-identification professionnelle est fournie par la partition interne du groupe de ceux qui se déclarent professionnels. Les professionnels qui se déclarent précaires et ou installés, cette catégorisation peut donner lieu à de multiples exégèses, évidemment. Où est la frontière ? Qu'est-ce que c'est que l'ancrage de l'auto-désignation, de l'auto-perception ? Et donc, nous avons vérifié ce que contient cette partition en mesurant toutes les différences qui soutiennent la distinction et l'auto-perception, ou en tout cas un grand nombre. Un résultat émerge. La situation de professionnel relève de trois dynamiques. Premièrement, l'attractivité des métiers artistiques et ici de la BD agit. Et cette attractivité peut varier avec le comportement du marché des publications, qui est en croissance après 2000, avec la création de formations spécialisées, avec les incitations diverses, notamment les aides et les soutiens, y compris de légitimation, de reconnaissance et de consolidation des droits de propriété et des droits sociaux. Alors, nous ne disposons pas de données longitudinales pour analyser l'évolution de la population des auteurs de BD, ni les intersections mouvantes entre la pleine professionnalisation et les formes multiples de contribution à la BD en parallèle à d'autres activités créatrices, jeux vidéo, écriture, art visuel, etc. Donc, je laisserai de côté ce point. Le deuxième point classique, c'est le déroulement des carrières qui opèrent par sélection et consolidation. Les barrières à l'entrée dans les métiers artistiques sont peu élevées et peu filtrantes. Pas besoin de diplôme pour se risquer, mais on a vu que le diplôme est maintenant une condition qui est souvent réalisée. Et c'est l'accumulation aussi de formations sur le tas par la pratique qui complète ou alors se substitue purement et simplement à la formation spécialisée artistique. L'accumulation d'expériences professionnelles, elle révèle à chacun ce qu'est le métier, ce qu'il en coûte pour s'y ancrer et les gratifications monétaires et non monétaires que le métier procure. La balance entre ces composantes d'apprentissage et d'expérience est une balance dynamique. Pour certains, elle est vite défavorable et ils quittent l'activité. Pour d'autres, elle est suffisamment stimulante et soutenable pour que l'ancrage dans le milieu professionnel s'établisse. et la partition entre amateurs et professionnels à partir de la distribution des âges fournit un indicateur simple mais éloquent. Je vous le donne tout de suite, elle est là, cette partition. Les amateurs sont ici, les précaires sont là et les professionnels sont là, et vous avez l'ordre d'âge croissant en colonne. Vous voyez que les amateurs sont très nombreux chez les jeunes, et puis au fur et à mesure que l'âge avance, la distribution du côté des précaires, entre précaires et installés, eh bien, il y a eu un effet de décantation, puisque chez les installés, les gens les plus âgés sont beaucoup plus nombreux, et les tranches d'âge intermédiaires aussi, mais que chez les amateurs, mais c'est surtout l'acquisition d'ancienneté et d'âge sont corrélés, évidemment. Parce que c'est un monde qui retient et qui décourage. La troisième dynamique, c'est celle de la hiérarchie réputationnelle. Je vais revenir à celui-là parce que je vais en commenter. Dans l'exercice de l'activité, avec des caractéristiques qui sont bien connues et de mieux en mieux documentées, la connaissance porte bien sûr sur les outputs, c'est-à-dire les inégalités de succès rémunérateur, mais aussi sur les mécanismes. Mécanisme 1, la nature des liens contractuels entre auteurs et éditeurs, qui sont porteurs d'opportunités inégalement productives en fonction des segments de marché, des différents genres de BD, et en fonction des ressources et des comportements et des réputations des éditeurs. Mécanisme 2, la stratification de ces liens contractuels en fonction d'appariements sélectifs, comme je les appelle, c'est-à-dire que les carrières des créateurs se reconfigurent quand elles connaissent une dynamique ascendante, en suscitant des offres d'éditeurs plus puissants, plus renommés ou plus inventifs. De même, les collaborations entre des auteurs, quand il y a division du travail, par exemple entre scénaristes et dessinateurs, se font aussi par le mécanisme de l'appariement sélectif. Travailler avec quelqu'un d'un niveau ou d'une réputation ou d'une inventivité à peu près équivalente ou peut-être même supérieure à la mienne, etc. Le troisième mécanisme, c'est la possibilité d'exploiter une réputation sur une variété croissante d'activités reliées qui permettent soit d'amplifier le succès, soit tenter d'autres expériences créatrices. Ces dynamiques et ces mécanismes disent beaucoup sur la carrière des auteurs. Ce sont des carrières menées sous un statut d'indépendant, donc avec la liberté et l'autonomie d'exercice, qui est le symétrique inverse de la subordination dans le salariat, mais aussi avec le risque de rémunération et de carrière qui en est la contrepartie ou l'autre face. Face brillante, quand le total rémunération monétaire et gratification non monétaire, c'est-à-dire le plaisir du métier, rend la carrière soutenable. Face plus sombre, quand ce total est celui d'une situation financière et réputationnelle précaire. L'un des sujets clés qui fait surface régulièrement et aujourd'hui aussi, c'est la disjonction, surtout visible dans le monde des indépendants, artiste ou pas, entre la quantité de travail et la rémunération. On en a déjà parlé. La rémunération du travail indépendant est contingente à la demande pour ce travail, telle que cette demande est exprimée sur le marché des biens et des services, ici les publications et les activités et services adjacents. Le paradoxe, si on rapporte cette situation des indépendants à celle des salariés, elle est dans la combinaison de plusieurs dimensions. Première dimension, la valeur économique et rémunératrice du travail n'est complètement révélée que par l'intensité de la demande et non pas par l'intensité du travail mis à créer une œuvre. On en a parlé ce matin. Deuxième dimension, ce travail n'est pas soutenable si la rémunération n'est pas phasée. C'est le système classique des avances sur droit ou des mensualisations, des avances sur droit d'auteur. Le montant relève de la négociation bilatérale. Il peut avoir une dimension conventionnelle, plus ou moins bien régulée, parce que ce travail requiert d'être valorisé, c'est-à-dire payé en amont, pour être rendu possible et viable économiquement, au moins partiellement, pour toutes celles et tous ceux dont les ressources immédiates sont d'abord calées sur la séquentialité et la discontinuité du travail au projet. La troisième dimension, c'est que la réputation est un capital qui est accumulé au fil des projets, c'est-à-dire selon cette dynamique séquentielle d'enchaînement non linéaire et non déterministe de réussites plus ou moins importantes et d'échecs plus ou moins éprouvants. Ce capital agit sur la dimension 2, le montant des avances et celui des droits. Quatrième dimension, nous sommes dans les arts et ce capital réputationnel se convertit en flux de revenus postérieurs à la production d'une œuvre et dans les cas de consécration durable ou super durable, en flux de revenus de très long terme. La propriété littéraire s'étend tout au long de la vie des auteurs et plusieurs décennies après leur décès, comme vous savez. La dimension de bien durable des œuvres d'art s'incarne ici dans la rémunération quand les œuvres sont portées par des flux durables d'achat et de consécration. Les rémunérations attachées aux diverses œuvres produites se cumulent alors. L'horizon temporel des travailleurs indépendants, ici comme ailleurs, il est toujours double. Il y a l'horizon court de la soutenabilité économique du travail réalisé à chaque moment et l'horizon long de l'accumulation d'un capital, d'autre part. Alors, les inégalités des réussites dans les carrières indépendantes sont doublement constituées par le niveau de gain instantané lié à chaque projet et par les droits d'auteur engendrés par la carrière des œuvres antérieures, carrière qui est elle-même sensible aux effets de halo d'un nouveau succès. La réussite d'un nouvel album en BD peut susciter un intérêt accru pour la production antérieure de l'auteur et par l'effet cumulé des gains plus ou moins élevés de réputation dans la durée. Pour celles et ceux qui se situent dans les différentes parties de la distribution des revenus cumulés de leur travail créateur, l'équation de la relation entre rémunération instantanée, rémunération différée et flux de rémunération cumulée sur les œuvres produites, elle est évidemment très contrastée. Celles et ceux qui gagnent mal ou moyennement leur vie par leur art font la double expérience du risque, les flux immédiats et les rémunérations cumulées faibles, et cherchent à modifier l'équation du risque pour augmenter la part immédiate et non contingente de la rémunération. C'est la fameuse affaire qui agite beaucoup les milieux professionnels aujourd'hui du paiement à la commande ou d'une élévation des avances presque considérées comme une commande, comme un revenu constitué comme tel. Mais évidemment, on ne veut pas renoncer non plus à la part contingente qui est indexée sur le succès des œuvres. Ceux qui sont parvenus dans la partie supérieure de la distribution voient cette même équation du risque se modifier doublement, mais à leur avantage. On gagne sur les deux tableaux, en quelque sorte. Mais ici, un nouveau paradoxe apparaît. L'économie du risque éditorial agit notamment par la multiplication des œuvres éditées. Une fraction seulement de ces publications trouvera son public et procurera à l'éditeur de quoi entretenir son économie de surproduction comme un mode de gestion de l'incertitude grâce au retour positif sur des investissements procurés par des succès éditoriaux. Cette économie du risque navigue entre, d'un côté, l'exploration par le pari sur de nouveaux auteurs, nouveaux projets, et de l'autre côté, l'exploitation des rentes réputationnelles acquises par certains auteurs et par des œuvres qui deviennent des éléments de patrimoine ou par la production sérielle d'œuvres qui sont devenues des marques, Blake et Mortimer, etc., même si les auteurs sont morts, mais on en retrouve des remplaçants. Il existe d'ailleurs une catégorie de BD qui sont dites patrimoniales, et la définition du syndicat de l'édition, c'est BD dont le premier tome est sorti avant 1983. Inutile de dire que pour l'éditeur, le risque principal est du côté exploration, et que la couverture du risque est d'abord du côté des bénéfices procurés par le pôle exploitation. L'équilibre entre ces deux stratégies polaires est variable et dépend des choix éditoriaux et de la compétition entre les éditeurs avec ces stratifications. Ce qui est certain, c'est que les auteurs mis en jeu par la stratégie d'exploration n'ont pas de revenus assurés ni de carrière assurée. Mais ils et elles seraient mauvais joueurs s'ils condamnaient l'économie du risque éditorial puisque les profits obtenus par la partie exploitation du succès permettent les investissements sur le pôle exploration. Cela dit, les auteurs font donc face à un problème de compétition horizontale avec tous ceux de leurs collègues auteurs qui sont embarqués dans le même jeu, chez les mêmes éditeurs ou chez d'autres éditeurs sur des segments ou des genres comparables aux leurs. On aboutit donc à la situation suivante. Les éditeurs surproduisent des nouveautés pour prouver des auteurs nouveaux porteurs d'originalité ou d'innovation. Ils déploient aussi une part importante de ressources pour assurer par leur politique éditoriale ou leur politique de marketing plutôt et de promotion le succès des auteurs sur lesquels l'incertitude est moindre parce que ces auteurs ont déjà trouvé un public, au moins pour leurs œuvres passées. Les auteurs produisent et sont, à mesure qu'ils s'ancrent dans le métier, conduits à construire des carrières avec leurs collègues pour concurrents, implantés déjà professionnellement ou de collègues comme eux, plus jeunes. Et donc, comment organiser la gestion du risque de ces deux côtés ? Pour l'éditeur, il y a deux stratégies. Il y a le financement croisé des productions, j'en ai parlé. Les succès nouveaux ou durables procurent de quoi tâtonner sur de nouveaux auteurs et entretenir des liens contractuels avec des auteurs déjà publiés. Ces liens se fragilisent quand la réussite commerciale des œuvres est évidemment non linéaire. Et puis, il y a la gestion des coûts fixes et des coûts variables. Parmi ces coûts fixes figure toute la gestion des activités éditoriales proprement dites Et il y a aujourd'hui une tendance assez forte dans le livre et dans d'autres activités qui consiste à faire remonter vers l'auteur toutes sortes de tâches qui étaient apparemment assurées par l'éditeur, editing, mise en forme, correction, promotion via les canaux, réseaux sociaux, etc. Autrement dit, il y a du travail en plus qui remonte vers l'auteur, en tout cas vers l'auteur qui n'est pas en position de négocier favorablement pour écarter les pressions de l'éditeur sur ce transfert de charge de travail. Pour l'auteur, l'autrice ou l'auteure, il faut trouver de quoi financer son activité pendant la phase de production. Si on reste dans le cadre des ressources à trouver uniquement par son travail créateur, ces ressources sont composées pour chaque projet par des avances sur droits en phase amont de la publication et par des droits d'auteur en phase aval, quand l'œuvre est entrée dans sa carrière commerciale. Mais les droits d'auteur ne remontent évidemment pas à l'auteur en temps réel. Il y a des délais et toutes sortes de motifs aux différements. Ce qui assure la liaison entre revenu amont et revenu aval, c'est deux choses. Des flux de droits d'auteur qui, idéalement, introduisent la continuité dans un travail par séquence de projets. Et deux, la simultanéité au moins partielle des projets ou leur imbrication, c'est-à-dire entamer un nouveau projet tout en poursuivant le travail sur un ou plusieurs projets en cours. La seconde solution est plus facile pour certaines tâches que pour d'autres. C'est, on va le voir, la différence de labor intensity qui distingue, par exemple, les dessinateurs ou les auteurs complets des scénaristes. Dans la composition des revenus, la part hypothétique est le flux de droits, parce qu'elle est contingente aux achats des consommateurs-lecteurs. La part moins hypothétique est l'avance sur droits. Elle est négociée entre l'auteur et l'éditeur et fixe en quelque sorte le prix horaire du travail de création pour chaque projet. Mais ce prix n'est pas régulé, il est déterminé par libre négociation. Il peut être fixé au-delà d'un seuil conventionnel, mais il est aussi directement modulé sur la réputation de l'auteur. Par de nombreux travaux auxquels j'ai moi-même beaucoup contribué depuis un article qui date déjà de pas mal d'années, « Rationalité, incertitude, avis d'artiste », nous connaissons les moyens dont disposent les artistes pour se couvrir des risques de carrières incertaines et souvent sous-rémunératrices par comparaison avec celles qu'ils pourraient mener dans d'autres métiers étant donné leurs caractéristiques et leur niveau de formation. Ces techniques de couverture de risques sont individuelles et collectives et font notamment appel à des ressources d'activité plus ou moins heureusement complémentaires menées en parallèle de l'activité créatrice. Enfin, dernière remarque introductive, la perception du risque par les artistes les conduit à s'interroger sur cette économie de surproduction qui caractérise le couplage entre la différenciation illimitée de la production et l'incertitude sur les réactions des consommateurs. Vous le verrez à la fin. J'espère arriver au bout, mais je crois que mon temps file à toute allure. J'ai introduit donc ici les principaux thèmes de l'exposé et maintenant je vais explorer les données. Mais j'ai fait figurer toujours dans chaque slide le takeaway, ce que vous pouvez prendre. Et donc ici, vous avez l'autoperception et chaque fois, nous distinguons dans beaucoup de ces diapositives des auteurs qui sont complets, c'est-à-dire scénario et dessin, les auteurs qui ne font que du dessin, ceux qui ne font que du scénario et le total. Et ce qu'on voit à travers un certain nombre de variables, c'est que, je vous résume, c'est une profession faiblement féminisée. Ici, c'est le genre, la part des femmes, vous le voyez, 25%, des effectifs inversement corrélés d'ailleurs à la capacité de professionnalisation et qui est sous-représenté dans l'activité la plus lucrative, le scénario. Il y a évidemment peut-être un effet générationnel, mais ça, nous n'avons pas pu le vérifier. La moitié des auteurs crée dessin et scénario, et l'autre moitié est dans la division des tâches. 10% des enquêtés se déclarent non professionnels de la BD, la moitié en situation précaire et un gros tiers bien inséré professionnellement. Pardon, 15%. Cette distribution est déformée positivement pour les dessinateurs. La barrière d'entrée dans l'activité, la concurrence et la sélectivité sont plus élevées et le rendement du travail dans la productivité est plus élevé. La formation paye sous condition de division du travail. Elle est artistique pour les dessinateurs, elle est supérieure et non spécialisée pour les scénaristes, massivement. Vous le voyez dans ces données. Ici, vous voyez que les scénaristes à 70% n'ont pas de formation artistique. C'est l'inverse pour les dessinateurs et les auteurs complets. Ensuite, j'ai parlé de la distribution des âges. Je n'y reviens pas. J'ai parlé de ce mécanisme de décantation sélective. L'accumulation d'ancienneté, c'est à la fois un output et un input, c'est-à-dire dans un monde où la carrière avance de manière cumulative, en fonction des succès et de manière stochastique, évidemment, ça joue considérablement comme un effet parfois de centrifugeuse. Et la précarité est le produit combiné à la fois d'une moindre ancienneté et, à ancienneté donnée, évidemment, d'une moindre réussite de marché. Les scénaristes, vous le verrez systématiquement, c'est l'activité où la réussite est la plus inégalitaire, avec les écarts d'ancienneté entre professionnels précaires et professionnels. Je devrais le préciser. Chaque colonne ici distingue les amateurs, les précaires et les professionnels, selon l'autodésignation. Et ici, vous avez la spécialité du travail, la multitâche ou monotâche. Et par exemple, les scénaristes qui sont en rouge, c'est la convention de toutes les slides, les scénaristes qui sont professionnels installés, c'est ça la convention, ont des anciennetés dans le métier qui font une forte différence avec les autres. C'est très caractéristique. Donc c'est un monde qui est à la fois plus lucratif et où la réussite est plus sélective. Ensuite, nous voulions savoir quelle est la productivité de ces artistes, le nombre d'albums qu'ils ont publiés, qui est corrélé à l'ancienneté, mais aussi l'intensité annuelle de travail. Et ce que nous voyons, c'est quatre observations. L'activité de scénariste obéit clairement à un autre régime de travail créateur. Les scénaristes ont produit 59 albums en moyenne, toutes anciennetés confondues, alors que vous voyez les différences pour... quand ils sont installés, je veux dire, alors que vous voyez la différence pour les dessinateurs installés ou les dessinateurs, les auteurs complets, qui sont beaucoup moins productifs en termes d'output. Dessin et multitâche, ce que nous appelons les auteurs complets, sont labor intensive, quel que soit le niveau de réussite professionnelle, amateur exclu. Et seuls les professionnels installés ont un système de production consolidé, c'est-à-dire qu'ils ont une productivité qui est supérieure et ils ont une ancienneté qui est supérieure. Et cette distribution de la productivité qui figure ici, le nombre d'albums par an avec le pourcentage d'individus pour chacun des crans de la distribution de productivité est typiquement asymétrique, c'est Pareto contre Gauss, comme toujours. Ici viennent les parts de revenus tirées de la BD. Vous voyez que les amateurs sont bien des non-professionnels à 97% parmi les complets, mais c'est la même chose pour les dessins ou le scénario, c'est 100%. Ils ne tirent aucun revenu de la BD, entre 0 et 25%. C'est le socle, c'est ça la distribution. En revanche, les scénaristes, eux, qui sont ici. Quand ils sont installés, c'est très clair, l'essentiel de leurs ressources, c'est-à-dire entre 75 et 100%, se trouve ici. Sont en majorité, ils peuvent tirer plus des trois quarts de leurs ressources de leur activité de création. Ça n'est le cas que de 56% des dessinateurs et 48% des auteurs complets. Et évidemment, cet avantage des scénaristes, il fait penser qu'ils sont à la fois de gros producteurs et qu'ils sont aussi acteurs de la BD patrimoniale et que leur labor intensity est déployable sur davantage de projets parce que le temps de travail d'un scénariste est probablement rythmé de manière très différente de celui, on va le voir à nouveau, de celui d'un dessinateur ou d'un auteur complet. Les auteurs complets sont le plus exposés à la non-couverture de l'effort, c'est-à-dire l'intensité de travail, par la rémunération dans l'équation de risque éditorial. Et ici, nous avons l'observation des revenus complets en 2014, une fois qu'on a pris en compte tout, puisqu'on leur a demandé qu'est-ce que vous gagnez par tranche, toutes sources de revenus confondues. La proximité est entre amateurs et professionnels précaires. Elle est assez claire dans les trois métiers et même les amateurs peuvent avoir des revenus plus élevés. Autrement dit, on atteint là ce que c'est que le plaisir d'exercer ce métier, même dans la précarité ou la tentative d'y rester, c'est-à-dire les gratifications contre les sacrifices. et le calcul d'un revenu anticipé, d'un flux de revenus complet anticipé, qui est un pari sur l'ancrage dans le métier. Ce sont des montants médians. Hein. Et nous avons fait l'analyse par distribution. En rouge, c'est le revenu complet. En noir, c'est le revenu de la seule BD. Et vous voyez qu'il faut démarrer, quand on a de faibles revenus de BD, évidemment, il faut avoir de beaucoup plus gros revenus de complet, etc. Et ensuite, les courbes peuvent éventuellement se croiser, mais tout au bout de la distribution. Les gains procurés par la BD, j'en ai déjà parlé, mais la faiblesse des gains médians, on a donné des chiffres. Dans la professionnalisation précaire, les gains, par exemple, dans le dessin, les gains sont considérablement moins élevés, la moitié des gains des installés, et dans le scénario, c'est 3,5 fois moins. Donc, la hiérarchie des revenus selon les tâches est aussi très apparente. Le revenu des scénaristes est beaucoup plus élevé que celui des dessinateurs ou des auteurs. Les scénaristes sont ici quand ils sont installés, et ça, c'est les dessinateurs et les auteurs complets. D'où vient la différence? Deux variables qui sont décrites ici. On leur a demandé, ça, nous n'étions pas responsables, leur meilleur montant d'avance et leur meilleur taux de droit d'auteur. Donc, c'est la situation optimale, en quelque sorte. Eh bien, les gains supérieurs des scénaristes ne viennent pas du niveau maximal des avances, qui est moins élevé que, par exemple, pour les auteurs complets, labor intensity oblige, sans doute, ni des taux maximaux, vous voyez, ils ne sont pas au sommet de la hiérarchie. Sur ces deux variables, la rémunération amont respecte, en fait, la nature labor intensive. Donc, on a une hiérarchie auteur complet, dessinateur, scénariste. L'avantage des scénaristes vient évidemment du cumul des projets et des flux plus importants de droits post-avance. Ensuite, on regarde la distribution par décile. Je vais passer assez vite sur le détail, mais on a décomposé en 10 catégories de revenus pour savoir où ça allait. Et les premiers déciles sont évidemment très resserrés sur des sommes faibles. Mais les déciles supérieurs, le 9e décile commence à 17 000 euros. 20% de la population gagne plus de 17 000 euros et il atteint 433 125 euros. Ça, c'est les outliers. Ici, vous avez la moyenne et la médiane. Bon, quand on en fait un graphique, voilà ce que ça donne. Pour les amateurs, les professionnels précaires sont en rouge et les professionnels installés en vert. Et ça, c'est la colonne du total. Donc, l'autodéfinition respecte parfaitement. Les amateurs sont très nombreux parmi ceux qui sont dans le premier décile et n'existent quasiment plus dans le dernier décile. Et vous le voyez aussi selon le genre, on a le même type de distribution. L'âge, avec moins de... La corrélation est moins forte, visiblement, et le type d'activité... complet ou scénario ou dessin, vous voyez les scénaristes percer ici très clairement dans les niveaux très élevés de revenus. Alors, la question, je vais peut-être passer assez vite là-dessus parce que je n'ai plus tellement de temps, mais j'ai déjà débordé, j'ai abusé de ma position de dernier intervenant et aussi de responsable du colloque. C'est mal, mais bon. C'est avec combien d'éditeurs on travaille? Vous voyez, les éditeurs, la moitié travaille avec un seul éditeur, mais après, ça se distribue sur 2, 3, 4, et ensuite, ça tombe très vite. Et ce sont les auteurs complets qui ont le plus d'éditeurs, de liens avec les éditeurs. En revanche, les scénaristes ont des liens beaucoup moins nombreux. Ça dit quelque chose sur le système de travail, certainement aussi. On a les éditeurs nommés, et les quatre dominants, c'est Dargaud, Casterman, Delcourt, Glénat, mais on peut les réunir en groupe aussi, on va le faire tout de suite. Puis il y a Soleil et Dupuis, et vous voyez qu'ensuite ça descend assez vite. Ce sont les éditeurs qui ont été cités par des auteurs, qui ont déclaré travailler avec eux. Et puis en bas, il y a une population très nombreuse d'éditeurs avec lesquels ont travaillé toute petite minorité d'auteurs qui sont des éditeurs qui ont été cités par moins de 16 auteurs. Alors, quand on regarde les revenus, c'est très clair. Là, on les a réunis en groupe, Delcourt et Soleil. Média Participation, c'est le groupe Gallimard. Glénat et Madrigal, c'est Gallimard. Et Média Participation, c'est la BD belge et Glénat. Et vous voyez que ces quatre-là se situent ici, ces colonnes-là. Dans le dernier décile, vous voyez que ces quatre raflent 75% de la population. Les trois quarts des auteurs du haut de la distribution des gains ont travaillé avec l'un de ces quatre groupes. Donc c'est un monde très concentré, mais avec des effets évidemment de, comme dirait l'autre, un oligopole à franges. Il y a des petits éditeurs qui agissent comme des têtes chercheuses, mais les auteurs qui valent, en quelque sorte, sont vite en contrat avec les gros éditeurs. Ici, j'ai fait figurer, c'est la distribution complète des gains qui monte au-delà de 200 000. On a dû resserrer et on regarde qui sont ceux qui sont les outliers, soit par le bas, c'est-à-dire qui sont en dessous du premier décile, et soit par le haut, au-delà du 9e décile. Et vous voyez que ce sont essentiellement des professionnels installés et en bas, des professionnels précaires. Et les amateurs n'apparaissent quasiment plus. Ensuite, nous faisons des régressions, c'est-à-dire on contrôle toutes choses égales par ailleurs, et nous faisons une régression sur le niveau de revenus des différentes catégories, scénaristes, dessinateurs, complets. Je vous donne, j'ai souligné les résultats intéressants, ça marche très bien pour les scénaristes, donc il y a quelque chose qui se passe clairement, les scénaristes distinguent des autres. La régression fonctionne mieux pour eux. Avoir une carrière longue, avantage principalement dessinateur et scénariste, ou bien on peut le dire, la probabilité d'une carrière longue est plus élevée sous le régime des monotâches, dessinateur et scénariste. Autrement dit, on entre peut-être dans la profession par la multitâche et après on se distribue. Avoir produit beaucoup, c'est un facteur qui est prépondérant. Les gains sont formés par le revenu au projet et les flux de revenus des droits sur toute la production. On a demandé aussi combien de temps ils travaillent dans une semaine. Et c'est au-delà de 50 heures qu'on y va, que le résultat est très significatif, notamment pour les scénaristes. Autrement dit, les indépendants, on sait qu'ils travaillent beaucoup, en moyenne 15 ou 20 heures de plus que les salariés en général. Eh bien, on retrouve ça ici aussi. Et la barre de décollage qui apparaît dans la régression, c'est plus de 50 heures. Donc, un résultat conforme à ce que nous savons. Et les monotâches tirent meilleurs revenus de leur intensité d'effort. Enfin, travailler avec les trois des éditeurs leaders est un facteur déterminant, mais inégalement selon les tâches. Alors, ça reste un sujet à creuser. Et puis là, nous regardons les montants de... les revenus que nous voulons expliquer par cette fameuse partition précaire et installée. Donc, à nouveau, être scénariste ou pas détermine ce qui va se passer dans les deux cas. Qu'est-ce qui explique qu'on est un précaire ou qu'on arrive à s'ancrer dans le métier ? Avoir beaucoup produit, je l'ai dit. Travailler beaucoup, je l'ai dit aussi. Et travailler avec un des quatre éditeurs leaders. Donc, on a la confirmation de la robustesse de l'autodésignation. C'est ça que je veux dire. Et puis ici, on a le montant des droits, le montant de la meilleure avance. Qu'est-ce qui fait qu'on a une avance substantielle ? Alors, l'avance compte moins pour les scénaristes que pour les auteurs complets, mais les scénaristes qui ont accumulé le plus d'ancienneté citent des montants plus élevés de meilleure avance. Le travail amont finance donc par avance et il distingue l'intensité des efforts des auteurs complets. Enfin, les quatre groupes éditoriaux leaders payent mieux les trois catégories d'auteurs, les trois. Et puis ici, nous cherchons à déterminer pour les précaires et les installés ce qui se passe. Et visiblement, l'avance compte moins, je l'ai dit, pour les scénaristes, pour établir la viabilité de l'exercice professionnel, parce qu'ils ont plus de projets et plus de ressources aval, de droits et de ressources latérales. Et quand on regarde si les revenus de la BD sont constitués à plus de 50% par l'avance, on voit que c'est le cas pour les professionnels intégrés à 63% moins pour les professionnels précaires, mais les droits en symétrique, moins de 50%, c'est le cas des professionnels complets à 81% et des professionnels précaires à 96%, mais si vous regardez la situation des scénaristes, intégrés, les droits, les avances ne constituent que, sont déclarés à plus de 50% de leurs revenus par 51% des auteurs, alors que la proportion de ceux qui déclarent que les droits ne forment que moins de 50% de leurs revenus sont 63%. C'est moins élevé, beaucoup moins élevé que 87 ou 81% dans les autres spécialités de travail. Donc il y a quelque chose qui se passe. L'outil n'est pas très précis parce que nous avons affaire à des tranches de revenus. Il faudrait aller plus loin, mais bon. En tout cas, les professionnels précaires peuvent se maintenir dans l'activité par les avances. Et l'avance va aussi aux workaholics. Autrement dit, la réputation, l'ancrage et la productivité cumulent leurs effets pour augmenter la part amont de sécurisation d'un travail intensif. Et enfin, les quatre groupes leaders payent mieux. Je voudrais enfin finir par ceci. Désolé d'être trop long, mais bon. On a demandé aux auteurs ce qu'ils pensaient de la surproduction. Est-ce que vous croyez qu'on produit trop d'albums ? Et voilà le résultat. 75% disent oui. Évidemment, c'est un résultat surprenant puisqu'ils sont à la fois les bénéficiaires et les victimes de cette surproduction, de cette économie de surproduction dont j'ai parlé au début. Mais quand on regarde la distribution par les différents facteurs explicatifs possibles de la variation des réponses, on voit que l'ancrage dans la profession, la quantité d'œuvres produites et l'ancienneté sont corrélés positivement au sentiment d'excès de production. Autrement dit, on veut se protéger d'une compétition excessive, mais une fois qu'on est inséré. Quand on n'est pas inséré, on veut bénéficier de l'entrée dans le métier et de la caravane qui passe et qui ne vous oublie pas. Et quitte à éprouver durement les conséquences négatives de cette économie de surproduction. Voilà, j'ai été trop rapide, je vous ai donné les conclusions avant l'introduction, mais la matière statistique était très abondante et vous pouvez le revoir tranquillement sur votre écran si vous en avez envie. Merci, je ne sais pas si on a le temps de questions, mais je vous remercie.